Première partie, chapitre 13. Mais le commencement de cette représentation m'intéressa encore d'une autre manière. Il me fit comprendre, en partie, la nature de l'illusion dont Saint-Loup était victime à l'égard de Rachel, et qui avait mis un abîme entre les images que nous avions de sa maîtresse, lui et moi, quand nous la voyions ce matin même sous les poiriers en fleurs. Rachel jouait un rôle presque de simple figurante dans la petite pièce, mais vue ainsi, c'était une autre femme. Rachel avait un de ces visages que l'éloignement, et pas nécessairement celui de la salle à la scène, le monde n'étant pour cela qu'un plus grand théâtre, dessine, et qui, vu de près, retombent en poussière. Placée à côté d'elle, on ne voyait qu'une nébuleuse, une voie lactée de taches de rousseur, de tout petits boutons, rien d'autre. À une distance convenable, tout cela cessait d'être visible, et des joues effacées, résorbées, se levaient comme un croissant de lune, un nez si fin, si pur, qu'on aurait souhaité être l'objet de l'attention de Rachel, la revoir autant qu'on voudrait, la posséder auprès de soi, si jamais on ne l'avait vue autrement et de près. Ce n'était pas mon cas, mais c'était celui de Saint-Loup, quand il l'avait vue jouer la première fois. Alors, il s'était demandé comment l'approcher, comment la connaître. En lui s'était ouvert tout un domaine merveilleux, celui où elle vivait, d'où émanaient des radiations délicieuses, mais où il ne pourrait pénétrer. Il sortit du théâtre, se disant qu'il serait fou de lui écrire, qu'elle ne lui répondrait pas, tout prêt à donner sa fortune et son nom pour la créature qui vivait en lui, dans un monde tellement supérieur à ces réalités trop connues, un monde embelli par le désir et le rêve, quand du théâtre, vieille petite construction qui avait elle-même l'air d'un décor, il vit, à la sortie des artistes, par une porte déboucher la troupe gaie et gentiment chapeautée des artistes qui avaient joué. Des jeunes gens qui les connaissaient étaient là à les attendre, le nombre des pions humains étant moins nombreux que celui des combinaisons qu'ils peuvent former, dans une salle où font défaut toutes les personnes qu'on pouvait connaître, il s'en trouve une qu'on ne croyait jamais avoir l'occasion de revoir et qui vient si à point que le hasard semble providentiel, auquel pourtant quelque autre hasard se fût sans doute substitué si nous avions été, non dans ce lieu, mais dans un différent, où seraient nés d'autres désirs, et où se serait rencontrée quelque autre vieille connaissance pour les seconder. Les portes d'or du monde des rêves s'étaient refermées sur Rachel avant que Saint-Loup l'eût vue sortir, de sorte que les taches de rousseur et les boutons eurent peu d'importance. Ils lui déplurent cependant, d'autant que, n'étant plus seul, il n'avait plus le même pouvoir de rêver qu'au théâtre devant elle. Mais, bien qu'il ne pût plus l'apercevoir, elle continuait à régir ses actes, comme ces astres qui nous gouvernent par leur attraction, même pendant les heures où ils ne sont pas visibles à nos yeux. Aussi, le désir de la comédienne au fin trait, qui n'était même pas présent au souvenir de Robert, fit que, sautant sur l'ancien camarade qui par hasard était là, il se fit présenter à la personne sans traits et aux taches de rousseur, puisque c'était la même, et en se disant que plus tard on aviserait de savoir laquelle des deux cette même personne était en réalité. Elle était pressée, elle n'adressa même pas cette fois-là la parole à Saint-Loup, et ce ne fut qu'après plusieurs jours qu'il put enfin, obtenant qu'elle quittât ses camarades, revenir avec elle. Il l'aimait déjà. Le besoin de rêve, le désir d'être heureux par celle à qui on a rêvé, font que beaucoup de temps n'est pas nécessaire pour qu'on confie toutes ses chances de bonheur à celle qui, quelques jours auparavant, n'était qu'une apparition fortuite, inconnue, indifférente, sur les planchers de la scène. Quand, le rideau tombé, nous passâmes sur le plateau, intimidé de m'y promener, je voulus parler avec vivacité à Saint-Loup. De cette façon, mon attitude, comme je ne savais pas laquelle on devait prendre dans ces lieux nouveaux pour moi, serait entièrement accaparée par notre conversation, et on penserait que j'y étais si absorbé, si distrait, qu'on trouverait naturel que je n'eusse pas les expressions de physionomie que j'aurais dû avoir dans un endroit où, tout à ce que je disais, je savais à peine que je me trouvais. Et, saisissant, pour aller plus vite, le premier sujet de conversation, « Tu sais, dis-je à Robert, que j'ai été pour te dire adieu le jour de mon départ. Nous n'avons jamais eu l'occasion d'en causer. Je t'ai salué dans la rue. » « Ne m'en parle pas, » me répondit-il. « J'en ai été désolé. Nous nous sommes rencontrés tout près du quartier, mais je n'ai pas pu m'arrêter, parce que j'étais déjà très en retard. Je t'assure que j'étais navré. » Ainsi, il m'avait reconnu. Je revoyais encore le salut entièrement impersonnel qu'il m'avait adressé, en levant la main à son képi, sans un regard dénonçant qu'il m'eût connu, sans un geste qui manifesta qu'il regrettait de ne pouvoir s'arrêter. Évidemment, cette fiction qu'il avait adoptée à ce moment-là, de ne pas me reconnaître, avait dû lui simplifier beaucoup les choses. Mais j'étais stupéfait qu'il eût su s'y arrêter si rapidement et avant qu'un réflexe eût décelé sa première impression. J'avais déjà remarqué à Balbec que, à côté de cette sincérité naïve de son visage, dont la peau laissait voir par transparence le brusque afflux de certaines émotions, son corps avait été admirablement dressé par l'éducation à un certain nombre de dissimulations de bienséance, et, comme un parfait comédien, il pouvait, dans sa vie de régiment, dans sa vie mondaine, jouer l'un après l'autre des rôles différents. Dans l'un de ces rôles, il m'aimait profondément. Il agissait à mon égard presque comme s'il était mon frère. Mon frère, il l'avait été. Il l'était redevenu. Mais pendant un instant, il avait été un autre personnage qui ne me connaissait pas, et qui, tenant les rênes, le monocle à l'œil, sans un regard ni un sourire, avait levé la main à la visière de son képi pour me rendre correctement le salut militaire. Les décors encore plantés entre lesquels je passais, vus ainsi de près et dépouillés de tout ce que leur ajoutent l'éloignement et l'éclairage, que le grand peintre qui les avait brossés avait calculé, étaient misérables. Et Rachel, quand je m'approchais d'elle, ne subit pas un moindre pouvoir de destruction. Les ailes de son nez charmant étaient restées dans la perspective, entre la salle et la scène, tout comme le relief des décors. Ce n'était plus elle. Je ne la reconnaissais que grâce à ses yeux où son identité s'était réfugiée. La forme, l'éclat de ce jeune astre, si brillant tout à l'heure, avait disparu. En revanche, comme si nous nous approchions de la lune et qu'elle cessa de nous paraître de rose et d'or, sur ce visage si uni tout à l'heure, je ne distinguais plus que des protubérances, des taches, des fondrières. Malgré l'incohérence où se résolvait de près non seulement le visage féminin, mais l'étoile peinte, j'étais heureux d'être là, de cheminer parmi les décors. Tout ce cadre qu'autrefois mon amour de la nature m'eût fait trouver ennuyeux et factice, mais auquel sa peinture par Goethe dans Wilhelm Meister avait donné pour moi une certaine beauté. Et j'étais déjà charmé d'apercevoir, au milieu de journalistes ou de gens du monde, amis des actrices, qui saluaient, causaient, fumaient comme à la ville, un jeune homme en toque de velours noir, en jupe hortensia, les joues crayonnées de rouge, comme une page d'album de Watteau, lequel, la bouche souriante, les yeux au ciel, esquissant de gracieux signes avec les paumes de ses mains, bondissant légèrement, semblait tellement d'une autre espèce que les gens raisonnables en veston et en redingote, au milieu desquels il poursuivait comme un fou son rêve extasié, si étrangers aux préoccupations de leur vie, si antérieurs aux habitudes de leur civilisation, si affranchis des lois de la nature, que c'était quelque chose d'aussi reposant et d'aussi frais que de voir un papillon égaré dans une foule, de suivre des yeux entre les frises les arabesques naturelles qui traçaient ces ébats ailés, capricieux et fardés. Mais au même instant, Saint-Loup s'imagina que sa maîtresse faisait attention à ce danseur, en train de repasser une dernière fois une figure du divertissement dans lequel il allait paraître, et sa figure se rembrunit. « Tu pourrais regarder d'un autre côté, » lui dit-il d'un air sombre. « Tu sais que ces danseurs ne valent pas la corde sur laquelle il ferait bien de monter pour se casser les reins. Et ce sont des gens à aller après se vanter que tu as fait attention à eux. Du reste, tu entends bien qu'on te dit d'aller dans ta loge t'habiller. Tu vas encore être en retard. » Trois messieurs, trois journalistes, voyant l'air furieux de Saint-Loup, se rapprochèrent, amusés, pour entendre ce qu'on disait. Et comme on plantait un décor de l'autre côté, nous fûmes resserrés contre eux. « Oh, mais je le reconnais, c'est mon ami !» s'écria la maîtresse de Saint-Loup en regardant le danseur. « Voilà qui est bien fait! Regardez-moi ces petites mains qui dansent, comme tout le reste de sa personne !» Le danseur tourna la tête vers elle, et sa personne humaine, apparaissant sous le sylphe qu'il s'exerçait à être, la gelée, droite et grise de ses yeux, trembla et brilla entre ses cils raidis et peints. Et un sourire prolongea des deux côtés sa bouche, dans sa face pastelisée de rouge. Puis, pour amuser la jeune femme, comme une chanteuse qui nous fredonne par complaisance l'air où nous lui avons dit que nous l'admirions, il se mit à refaire le mouvement de ses paumes, en se contrefaisant lui-même avec une finesse de pasticheur et une bonne humeur d'enfant. « Oh, c'est trop gentil, ce coup de s'imiter soi-même !» s'écria-t-elle en battant des mains. « Je t'en supplie, mon petit !» lui dit Saint-Loup d'une voix désolée. « Ne te donne pas un spectacle comme cela. Tu me tues. Je te jure que si tu dis un mot de plus, je ne t'accompagne pas à ta loge, et je m'en vais. Voyons, ne fais pas la méchante. Ne reste pas comme cela dans la fumée de cigare. Cela va te faire mal, » me dit Saint-Loup avec cette sollicitude qu'il avait pour moi depuis Balbec. « Oh, quel bonheur si tu t'en vas !»« Je te préviens que je ne reviendrai plus. » Je n'ose pas l'espérer. Écoute, tu sais, je t'ai promis le collier si tu étais gentille. Mais du moment que tu me traites comme cela... Ha ! Voilà une chose qui ne m'étonne pas de toi. Tu m'avais fait une promesse. J'aurais bien dû penser que tu ne la tiendrais pas. Tu veux faire sonner que tu as de l'argent, mais je ne suis pas intéressée comme toi. Je m'en fous de ton collier. J'ai quelqu'un qui me le donnera. Personne d'autre ne pourra te le donner, car je l'ai retenu chez Boucheron, et j'ai sa parole qu'il ne le vendra qu'à moi. C'est bien cela. Tu as voulu me faire chanter. Tu as pris toutes tes précautions d'avance. C'est bien ce qu'on dit. Marsante, mater semita, ça sent la race, répondit Rachel, répétant une étymologie qui reposait sur un grossier contresens, car semita signifie sente et non sémite, mais que les nationalistes appliquaient à Saint-Loup à cause des opinions dreyfusardes qu'il devait pourtant à l'actrice. Elle était moins bienvenue que personne à traiter de juive Madame de Marsante, à qui les ethnographes de la société ne pouvaient arriver à trouver de juif que sa parenté avec les Lévy Mirepoix. Mais tout n'est pas fini, sois-en sûr. Une parole donnée dans ces conditions n'a aucune valeur. Tu as agi par traîtrise avec moi. Boucheron le saura, et on lui en donnera le double de son collier. Tu auras bientôt de mes nouvelles, sois tranquille. Robert avait 100 fois raison. Mais les circonstances sont toujours si embrouillées que celui qui a 100 fois raison peut avoir eu 1 fois tort. Et je ne pus m'empêcher de me rappeler ce mot désagréable et pourtant bien innocent qu'il avait eu à Balbec. De cette façon, j'ai barre sur elle. Tu as mal compris ce que je t'ai dit pour le collier. Je ne te l'avais pas promis d'une façon formelle. Du moment que tu fais tout ce qu'il faut pour que je te quitte, il est bien naturel, voyons, que je ne te le donne pas. Je ne comprends pas où tu vois de la traîtrise là-dedans, ni que je suis intéressée. On ne peut pas dire que je fais sonner mon argent. Je te dis toujours que je suis un pauvre bougre qui n'a pas le sou. Tu as tort de le prendre comme ça, mon petit. En quoi suis-je intéressée? Tu sais bien que mon seul intérêt, c'est toi. Oui, oui, tu peux continuer, lui dit-elle ironiquement, en esquissant le geste de quelqu'un qui vous fait la barbe. Et, se tournant vers le danseur, « Ah, vraiment, il est épatant avec ses mains. Moi qui suis une femme, je ne pourrais pas faire ce qu'il fait là. » Et, se tournant vers lui en lui montrant les traits convulsés de Robert, « Regarde, il souffre !» lui dit-elle tout bas, dans l'élan momentané d'une cruauté sadique, qui n'était d'ailleurs nullement en rapport avec ses vrais sentiments d'affection pour Saint-Loup. « Écoute, pour la dernière fois, je te jure que tu auras beau faire, tu pourras avoir dans 8 jours tous les regrets du monde. Je ne reviendrai pas, la coupe est pleine, fais attention, c'est irrévocable. Tu le regretteras un jour, il sera trop tard. » Peut-être était-il sincère, et le tourment de quitter sa maîtresse lui semblait-il moins cruel que celui de rester près d'elle dans certaines conditions. « Mais, mon petit, ajouta-t-il en s'adressant à moi, ne reste pas là, je te dis, tu vas te mettre à tousser. » Je lui montrai le décor qui m'empêchait de me déplacer. Il toucha légèrement son chapeau et dit au journaliste, « Monsieur, est-ce que vous voudriez bien jeter votre cigare? La fumée fait mal à mon ami. » Sa maîtresse, ne l'attendant pas, s'en allait vers sa loge et, se retournant, « Est-ce qu'elles font aussi comme ça avec les femmes, ces petites mains-là » jeta-t-elle aux danseurs du fond du théâtre, avec une voix factissement mélodieuse et innocente d'ingénue. « Tu as l'air d'une femme toi-même. Je crois qu'on pourrait très bien s'entendre avec toi et une de mes amies. »
« Il n'est pas défendu de fumer, que je sache. Quand on est malade, on n'a qu'à rester chez soi, » dit le journaliste.
Le danseur sourit mystérieusement à l'artiste. « Oh, tais-toi, tu me rends folle !» lui cria-t-elle. « On en fera des parties !»«
En tout cas, monsieur, vous n'êtes pas très aimable !» dit Saint-Loup au journaliste, toujours sur un ton poli et doux,
avec l'air de constatation de quelqu'un qui vient de juger rétrospectivement un incident terminé. À ce moment, je vis Saint-Loup lever son bras verticalement au-dessus de sa tête, comme s'il avait fait signe à quelqu'un que je ne voyais pas, ou comme un chef d'orchestre. Et en effet, sans plus de transition que sur un simple geste d'archer, dans une symphonie ou un ballet, des rythmes violents succèdent à un gracieux andante. Après les paroles courtoises qu'il venait de dire, il a bâti sa main en une gifle retentissante sur la joue du journaliste. Maintenant qu'aux conversations cadencées des diplomates, aux arts riants de la paix, avaient succédé l'élan furieux de la guerre, les coups appelant les coups, je n'eusse pas été trop étonné de voir les adversaires baignant dans leur sang. Mais ce que je ne pouvais pas comprendre, comme les personnes qui trouvent que ce n'est pas de jeu que survienne une guerre entre deux pays quand il n'a encore été question que d'une rectification de frontières, ou la mort d'un malade alors qu'il n'était question que d'une grosseur du foie. C'était comment Saint-Loup avait pu faire suivre ses paroles, qui appréciaient une nuance d'amabilité, d'un geste qui ne sortait nullement d'elle, qu'elle n'annonçait pas, le geste de ce bras levé non seulement au mépris du droit des gens, mais du principe de causalité, en une génération spontanée de colère,
ce geste créé ex nihilo. Heureusement, le journaliste, qui, trébuchant sous la violence du coup, avait pâli et hésité un instant, ne riposta pas. Quant à ses amis, l'un avait aussitôt détourné la tête en regardant avec attention du côté des coulisses quelqu'un qui, évidemment, ne s'y trouvait pas. Le second fit semblant qu'un grain de poussière lui était entré dans l'œil et se mit à pincer sa paupière en faisant des grimaces de souffrance. Pour le troisième, il s'était élancé en s'écriant « Mon Dieu, je crois qu'on va lever le rideau, nous n'aurons pas nos places !» J'aurais voulu parler à Saint-Loup, mais il était tellement rempli par son indignation contre le danseur qu'elle venait adhérer exactement à la surface de ses prunelles. Comme une armature intérieure, elle tendait ses joues, de sorte que son agitation intérieure, se traduisant par une entière inamovibilité extérieure, il n'avait même pas le relâchement, le jeu nécessaire pour accueillir un mot de moi et y répondre. Les amis du journaliste, voyant que tout était terminé, revinrent auprès de lui, encore tremblant. Mais, honteux de l'avoir abandonné, il tenait absolument à ce qu'il crût qu'il ne s'était rendu compte de rien. Aussi, s'étendait-il l'un sur sa poussière dans l'œil, l'autre sur la fausse alerte qu'il avait eue en se figurant qu'on levait le rideau, le troisième sur l'extraordinaire ressemblance d'une personne qui avait passé avec son frère. Et même, ils lui témoignèrent une certaine mauvaise humeur de ce qu'ils n'avaient pas partagé leurs émotions.
« Comment cela ne t'a pas frappé? Tu ne vois donc pas clair ?»«
C'est-à-dire que vous êtes tous des capons !» grommela le journaliste giflé. Inconséquent avec la fiction qu'ils avaient adoptée et en vertu de laquelle ils auraient dû, mais ils n'y songèrent pas, avoir l'air de ne pas comprendre ce qu'ils voulaient dire, ils proférèrent une phrase qui est de tradition en ces circonstances.
« Voilà que tu t'emballes, ne prends pas la mouche, on dirait que tu as le mort aux dents. »
J'avais compris le matin, devant les poiriers en fleurs, l'illusion sur laquelle reposait son amour pour Rachel quand du Seigneur. Je ne me rendais pas moins compte de ce qu'avaient au contraire de réel les souffrances qui naissaient de cet amour. Peu à peu, celle qu'il ressentait depuis une heure, sans cesser, se rétracta, rentra en lui. Une zone disponible et souple parut dans ses yeux. Nous quittâmes le théâtre, Saint-Loup et moi, et marchâmes d'abord un peu. Je m'étais attardé un instant à un angle de l'avenue Gabriel, d'où je voyais souvent jadis arriver Gilberte. J'essayais pendant quelques secondes de me rappeler ses impressions lointaines, et j'allais rattraper Saint-Loup au pas gymnastique, quand je vis qu'un monsieur, assez mal habillé, avait l'air de lui parler d'assez près. J'en conclus que c'était un ami personnel de Robert. Cependant, ils semblaient se rapprocher encore l'un de l'autre. Tout à coup, comme apparaît au ciel un phénomène astral, je vis des corps ovoïdes prendre avec une rapidité vertigineuse toutes les positions qui leur permettaient de composer, devant Saint-Loup, une instable constellation. Lancés comme par une fronde, ils me semblèrent être au moins au nombre de 7. Ce n'étaient pourtant que les 2 points de Saint-Loup, multipliés par leur vitesse à changer de place dans cet ensemble en apparence idéal et décoratif. Mais cette pièce d'artifice n'était qu'une roulée qu'administrait Saint-Loup, et dont le caractère agressif, au lieu d'esthétique, me fut d'abord révélé par l'aspect du monsieur médiocrement habillé, lequel parut perdre à la fois toute contenance, une mâchoire et beaucoup de sang. Il donna des explications mensongères aux personnes qui s'approchaient pour l'interroger, tourna la tête et, voyant que Saint-Loup s'éloignait définitivement pour me rejoindre, resta à le regarder d'un air de rancune et d'accablement, mais nullement furieux. Saint-Loup, au contraire, l'était, bien qu'il n'eût rien reçu, et ses yeux étincelaient encore de colère quand il me rejoignit. L'incident ne se rapportait en rien
comme je l'avais cru, aux gifles du théâtre. C'était un promeneur passionné qui, voyant le beau militaire qu'était Saint-Loup, lui avait fait des propositions. Mon ami n'en revenait pas de l'audace de cette clique qui n'attendait même plus les ombres nocturnes pour se hasarder. Et il parlait des propositions qu'on lui avait faites avec la même indignation que les journaux d'un vol à main armée osé en plein jour dans un quartier central de Paris. Pourtant, le monsieur battu était excusable en ceci qu'un plan incliné rapproche assez vite le désir de la jouissance pour que la seule beauté apparaisse déjà comme un consentement. Or, que Saint-Loup fût beau n'était pas discutable. Des coups de poing comme ceux qu'il venait de donner ont cette utilité pour des hommes du genre de celui qui l'avait accosté tout à l'heure, de leur donner sérieusement à réfléchir. Mais toutefois, pendant trop peu de temps pour qu'ils puissent se corriger et échapper ainsi à des châtiments judiciaires. Ainsi, bien que Saint-Loup eût donné sa raclée sans beaucoup réfléchir, toutes celles de ce genre, même si elles viennent en aide aux lois, n'arrivent pas à homogénéiser les mœurs. Ces incidents, et sans doute celui auquel il pensait le plus, donnèrent sans doute à Robert le désir d'être un peu seul. Au bout d'un moment, il me demanda de nous séparer et que j'allasse de mon côté chez Madame de Villeparisis. Il m'y retrouverait, mais aimait mieux que nous n'entrions pas ensemble pour qu'il eût l'air d'arriver seulement à Paris plutôt que de donner à penser que nous avions déjà passé l'un avec l'autre une partie de l'après-midi.